Donc, Nicolas Metz, vous êtes économiste à la division mondialisation et stratégie de développement à la CNUSED et co-auteur de ce nouveau rapport. Quels sont les contours de cet appel de l'ONU de 2 500 milliards de dollars en faveur des pays en développement pour faire face au choc du Covid-19?
Brièvement, en fait, on a mis en avant que les pays en développement allaient faire face à un besoin de liquidité extrêmement important dans les mois à venir. Donc, il est nécessaire de leur apporter un apport en liquidité à hauteur d'à peu près 1 000 milliards de dollars sous forme, en fait, de droits de tirage spéciaux. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est qu'énormément de pays en développement et parmi eux les pays les moins avancés vont faire face à des repayements de dettes dans cette année et dans l'année suivante. Et étant donné la pression auxquelles vont faire face leurs finances publiques cette année et l'année prochaine, ça va être impossible pour eux de repayer cette dette-là. Donc, on appelle à une annulation de la dette de ces pays-là pour le repayement de cette dette pour l'année prochaine et cette année. Et ça, c'est un autre montant de 1 000 milliards de dollars. Et finalement, étant donné en fait la sévérité de la crise sanitaire qui va frapper les pays en développement, il est aussi important de mettre en place l'équivalent d'un plan Marshall pour la santé. Et ça, d'après nos calculs, on arrive à des montants de 500 milliards de dollars qui seraient nécessaires pour les pays en développement pour faire face en fait à la crise sanitaire.
Justement, par rapport à ce plan Marshall de 500 milliards de dollars, est-ce à dire que c'est la priorité vu que déjà le virus est déjà dans les pays africains, par exemple?
Oui, justement, comme vous le savez, la plupart des pays en développement et surtout en Afrique font face à un déficit important de ressources, d'appareils médicaux de tout genre qui seraient nécessaires pour faire face à la pandémie. Et donc, il est important qu'une aide leur soit allouée. On remarque, c'est que depuis la crise de 2008-2009, très souvent les États développés n'ont pas respecté leurs engagements en termes d'assistance officielle pour le développement ou d'aide publique aux pays en développement. Et donc, d'après nos calculs, si les États s'étaient engagés à respecter leurs promesses, il y aurait eu à peu près 2 000 milliards de dollars qui auraient dû affluer vers les pays en développement. Donc, ce qu'on met en avant, c'est qu'étant donné l'urgence de la situation, il est important de débloquer très rapidement à peu près un quart de cette aide, et donc on arrive à 500 milliards de dollars qui seraient très urgents de débloquer, que ce soit sous forme d'appareils médicaux, d'équipements médicaux en tout genre, mais aussi éventuellement de transferts de connaissances, de médecins, etc., pour faire face à la situation qui va être très très compliquée dans les pays en développement dans les mois à venir.
L'autre volet de ce plan, c'est l'annulation de la dette pour 1 000 milliards, mais si je peux bien comprendre, cette annulation ou allègement de la dette?
Alors là, on parle d'une annulation partielle, justement, des créances qui arrivent à échéance dans cette année et l'année prochaine. L'idée étant que, étant donné la pression pour faire face des finances publiques dans les pays en développement, de différer uniquement ces dettes dans le temps, eh bien, ça va ne faire qu'accroître encore, par exemple, les ratios de dette sur le produit intérieur brut. Et ça ne permettra pas, par la suite, à ces économies de se relever et de pouvoir repartir d'un point de vue économique une fois que le choc de la crise médicale sera passé. Donc là, on appelle vraiment à une annulation du paiement de ces dettes à venir dans les deux prochaines années.
La CNUSED parle de dommages économiques sans précédent du fait de la crise due à la pandémie mondiale. Mais quand vous projetez sur l'imminence d'un tsunami financier, quels sont ces signes avant-coureurs?
Alors, on s'est rendu compte, notamment si on observe par exemple les flux de capitaux privés, qu'il y a eu un retrait massif et sans précédent en fait, notamment des flux de capitaux de non-résidents qui avaient été destinés aux pays en développement. Si on compare à d'autres épisodes précédents, notamment la crise de 2009, d'autres chocs financiers qui ont eu lieu depuis, on voit que les montants actuels sont beaucoup plus importants et que le retrait de ces capitaux a été extrêmement rapide. À l'heure actuelle, si on prend comme point de départ à peu près la mi-février, on observe qu'il y a eu à peu près 70 milliards de dollars qui ont été rapatriés uniquement pour ce qui concerne les actions et les obligations dans ces pays-là. Il y a eu aussi, bien entendu, de très forts impacts sur les devises des pays en développement. On voit là encore que la dépréciation de certaines devises de pays en développement importants comme l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Argentine, le Mexique et bien d'autres a été aussi très très brutale. On parle d'à peu près 20% de dépréciation de leur monnaie par rapport au dollar depuis le début de l'année. Donc là aussi, beaucoup plus fort que ce qu'on avait même observé suite à la chute de Lehman Brothers en 2008. Et un dernier facteur important, c'est le prix des matières premières qui lui aussi a chuté massivement. que ce soit le pétrole, mais aussi pas mal d'autres matières premières, que ce soit dans les métaux ou même dans l'agriculture. Vous avez par exemple des chutes du prix du coton depuis le début de l'année de plus de 20%, et donc qui vont affecter en fait très fortement les revenus d'exportation des pays en développement.
Dernière question aussi, toutes ces mesures que vous préconisez, ces recommandations à la communauté internationale ne sont pas prises. Quelles seraient les conséquences pour les populations de ces pays? Qu'est-ce que vous redoutez le plus?
Une des conséquences majeures, c'est qu'on fait face actuellement à deux urgences et deux chocs. Le premier qui est un choc d'ordre sanitaire, où là il est important en fait d'instaurer des distances sociales pour freiner l'épidémie de Covid-19, et que ça a des répercussions économiques majeures, dans la mesure où ça va ralentir l'activité économique. Si ces aides financières ne sont pas mises en place, eh ben, la majorité des personnes vivant dans les pays en développement n'auront pas d'autre choix pour pouvoir survivre que de continuer à travailler. Et ça va avoir des répercussions en termes de vie humaine qui vont être extrêmement importantes. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'apporter un soutien économique pour permettre finalement de ralentir la pandémie et la diffusion du virus du Covid-19 au sein de la population des pays en développement.